Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Une grande partie de nos activités quotidiennes consiste à parler et à communiquer avec les autres.
Mais que dit la Bible au sujet de la communication et de l'usage de la langue?
Nous le découvrons à travers cette série de discussions. Yann est en compagnie de notre invité Étienne et je leur cède tout de suite la parole.
Bonjour Étienne et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Nous l'avons déjà dit, tout ce que nous disons, toutes les paroles que nous prononçons peuvent avoir un grand impact sur les gens qui nous entourent, soit en bien, soit en mal. Alors aujourd'hui, je voudrais que chacun réfléchisse à la question suivante. Mes paroles sont-elles une source d'encouragement ou sont-elles une source de découragement? La Bible contient des proverbes qui évoquent ce thème de façon poétique. En voilà une sélection lue par Sandra.
Des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Des paroles justes, dites au bon moment, sont comme des abricots d'or avec des ciselures d'argent.
Ces belles images nous rappellent l'impact produit par nos paroles, car elles ne sont pas sans effet. Elles peuvent blesser ou démoraliser, comme elles peuvent guérir ou réconforter.
Oui, et aujourd'hui, je voudrais vous encourager à vous servir de votre langue pour encourager les personnes de votre entourage. Toutefois, auparavant, il est nécessaire de parler des paroles qui blessent ou démoralisent, car on en entend beaucoup trop, bien qu'elles n'apportent que détresse et chagrin.
Pouvez-vous nous dire quel type de paroles peuvent être blessantes?
Oui, les insultes et les menaces, les moqueries, les taquineries méchantes, de même que les paroles qui rabaissent et dévalorisent, comme les critiques et les reproches incessants et injustes.
Mais la Bible ne dit-elle pas qu'il est parfois nécessaire de reprendre ou de corriger? Oh, cela peut être pris comme des critiques ou des reproches.
Vous avez raison, Yann. Et il s'agit là d'une question délicate qui retiendra notre attention lors d'une prochaine émission. Pour l'instant, il est important de noter que nous devons faire attention non seulement à ce que nous disons, mais aussi à la manière dont nous le disons.
Expliquez-vous davantage, s'il vous plaît.
La communication se fait non seulement par le choix des mots, mais aussi par le ton de notre voix et par nos gestes. Si notre voix exprime des sentiments de colère, de haine ou d'amertume, alors nos paroles seront blessantes. Notre voix peut aussi trahir notre mépris, notre orgueil ou notre agressivité. Oui, les paroles révèlent l'état de notre cœur.
Nous devons alors nous remettre chacun en question et considérer si nos propos sont droits.
Oui, et ne l'oublions pas, à force de blesser les autres, nous briserons des amitiés et les cœurs de ceux qui nous subissent. Mais parlons à présent des paroles bienfaisantes. Et écoutons pour commencer quelques versets tirés du livre biblique de 1 Samuel au chapitre 23.
Jonathan, le fils de Saül, se mit en route et se rendit auprès de David à Horosha pour l'encourager en affermissant sa confiance en Dieu. Il lui dit « Sois sans crainte, mon père ne réussira pas à mettre la main sur toi. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Mon père lui-même sait bien qu'il en sera ainsi. » Tous deux renouvelèrent leur pacte d'amitié devant l'Éternel. David resta à Horosha, et Jonathan rentra chez lui.
Quel bel exemple! Jonathan fit un long voyage pour se rendre auprès de son ami David, et dans quel but? Pour l'encourager et affermir sa foi.
Rappelez-nous les circonstances de cette visite.
David avait dû fuir loin du roi Saül, car ce dernier était devenu jaloux et fou de colère contre lui à cause de ses succès militaires. Or, Saül était le père de Jonathan. Entre-temps, David, pour sauver sa vie, s'était réfugié dans un lieu désert. Et là, il vivait dans des grottes, tandis que le roi Saül le cherchait partout en vain, dans l'espoir de le tuer. Et nous pouvons facilement imaginer David découragé, craignant pour son avenir. Il est vrai que Dieu lui avait annoncé qu'il serait roi un jour, mais en ce moment précis, il pouvait en douter.
Alors David avait besoin d'être encouragé.
Oui, et voilà que Jonathan entreprend un voyage de plusieurs jours, un voyage dangereux, justement, pour soutenir son ami. Nous aussi, sommes-nous prêts à nous déplacer pour encourager nos amis? Acceptons-nous d'être dérangés par ceux qui cherchent auprès de nous un conseil, une oreille attentive, des paroles d'encouragement? Jonathan, lui, a soutenu David au risque de subir la désapprobation de son père.
Jonathan était prêt à tout pour aider David. Quelle belle preuve d'amitié.
Oui, et comme l'exprime l'un des proverbes lus tout à l'heure, Jonathan a apporté des paroles justes au bon moment. Il a pu trouver les mots qui ont affermi la foi de David, qui l'ont aidé à surmonter ses peurs et son découragement.
Parlez-nous davantage de ce que Jonathan a dit à David.
David, semble-t-il, ne parvenait plus à s'appuyer sur les promesses que Dieu lui avait faites. Dieu lui avait en effet annoncé qu'il serait un jour roi d'Israël, qu'il succéderait au roi Saül. Or, Jonathan lui rappelle que parce que Dieu tient ses promesses, Saül ne réussira jamais à le tuer. En effet, personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Fort de ce rappel, les peurs de David se sont apaisées et il a repris de l'assurance.
Et que pouvons-nous apprendre de cet épisode?
La meilleure façon d'encourager nos amis est de leur rappeler le caractère de Dieu, ses paroles, ses promesses. Pour réussir dans cette mission, il est important de comprendre les sentiments inquiets et les pensées désorientées de ceux à qui nous nous adressons. Il est nécessaire de comprendre leurs circonstances, celles qui les ont plongés dans un tel désespoir. Alors il faut savoir écouter, il faut savoir aimer. Nous parlerons d'ailleurs de l'importance de l'écoute lors d'une prochaine émission. Seulement alors, nous trouverons les mots justes, ceux qui transforment les pensées et fortifient la foi. Un tel travail n'est pas forcément facile, mais tout comme Jonathan le fit, nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu et trouver celles qui sont les plus appropriées et bienfaisantes pour faire du bien.
Je pense aux amis de Job dont la Bible raconte l'histoire. Au plus profond de son désespoir, le commentaire lui en fait plus de mal que de bien, me semble-t-il.
C'est vrai, Yann. Au lieu de le réconforter, ses amis l'ont accusé injustement. Ils n'ont compris ni sa souffrance, ni la compassion de Dieu. Suivons plutôt l'exemple de Jonathan. Lui a compris la situation préoccupante de son ami David. Est convaincu que la parole de Dieu a le pouvoir d'apaiser les cœurs, d'encourager et d'affermir, il s'en est emparé. Les proverbes le déclarent, un mot juste et sage, donné au bon moment, peut faire énormément de bien.
Merci Étienne. Et comment voulez-vous conclure notre discussion?
En posant la question contenue dans l'un des proverbes lus tout à l'heure. Vos paroles sont-elles comme des épées tranchantes ou sont-elles comme le baume qui guérit? Et enfin, je voudrais vous lancer un défi. Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'être encouragé? Que pouvez-vous lui dire aujourd'hui pour apaiser ses craintes et pour affermir sa foi?
Merci Étienne pour cet encouragement à trouver les paroles justes et bonnes pour soutenir et réconforter.
Merci Yann et au revoir à tous.
Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique. Nous nous pencherons sur la première épître de Jean. Sandra va nous lire au chapitre 2, les versets 1 à 2. Ensuite, elle cédera la parole à Claude, qui nous fera part de ses réflexions.
Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Ces versets nous enseignent deux leçons fondamentales. La première, c'est que Dieu est en colère contre nous. Et la deuxième, c'est que Jésus a apaisé la colère de Dieu. La colère humaine est une force redoutable, souvent destructrice et immaîtrisable. Elle engendre plutôt le mal et non le bien. Et pourtant, nous constatons aussi que la colère est une réaction naturelle et juste devant le mal. Car lorsque nous remarquons les injustices qui pullulent dans le monde, et que nous en subissons nous aussi, la colère se met à gronder dans notre cœur. Ainsi, nous le comprenons. Parler de la colère de Dieu, c'est décrire sa réaction juste face au mal et face aux actions égoïstes des hommes. Dieu n'est pas indifférent au mal, il le tient en horreur et le rejette totalement. Toutefois, la colère de Dieu est juste et non celle des hommes, car Dieu maîtrise parfaitement sa colère, chose que nous ne parvenons pas à faire. La colère de Dieu est juste, elle est même une expression de son amour pour nous qu'il a créé. Dieu est en colère contre nous tous, sans exception. Mais combien il est facile de voir les fautes des autres et de les montrer du doigt, d'exprimer notre agacement, alors que nous n'osons pas nous observer nous-mêmes pour constater nos propres fautes. Dieu, toutefois, connaît nos cœurs. Il y voit notre péché, nos attitudes et nos mauvais désirs, nos paroles et gestes impurs. Oui, nous avons besoin d'un médiateur pour apaiser la colère de Dieu. Son nom est Jésus. Tout au long des événements de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu devait offrir des animaux en sacrifice. À travers cet acte symbolique, l'animal subissait la colère de Dieu à la place de celui qui l'offrait. Du coup, Dieu offrait son pardon, toute culpabilité était enlevée et la relation brisée entre l'homme et Dieu était restaurée, la réconciliation était totale. Toutefois, tous ces sacrifices illustraient une réalité plus profonde encore. Ils annonçaient un futur merveilleux. Dieu lui-même allait envoyer un serviteur qui s'offrirait en sacrifice. Or, ce sacrifice mettrait fin à tous les autres, car il apaiserait la colère de Dieu à jamais, pour quiconque croirait en lui. Oui, en mourant sur la croix, Jésus-Christ s'est offert en sacrifice. En mourant, il a subi la colère de Dieu, et cette colère ne tombera plus sur nous. Désormais, nous n'avons plus à craindre la colère de Dieu, car grâce à Jésus, nous sommes pardonnés et réconciliés avec lui, si nous croyons en son sacrifice.
Merci Claude. Demandons à Jésus de régner dans notre cœur.
Cela me rappelle des paroles du prophète Ésaïe, chapitre 11. « Je te loue, Éternel, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise, tu me consoles. Oui, Dieu est mon sauveur, je me confie en lui, et je n'ai plus crainte. Car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. C'est pourquoi, avec joie, je puiserai de l'eau aux sources du salut. »
Merci Yann. Chers amis auditeurs, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.